Et au menu de notre club cet après-midi, un chercheur primé pour ses travaux sur la génétique humaine, les dérives malveillantes de l'intelligence artificielle, un skipper de retour du Vendée Globe et des explorations pour les enfants. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une nouvelle piste pour la recherche de la vie ailleurs dans l'univers.
Et oui, pourquoi chercher la vie sur les planètes alors qu'elle pourrait peut-être se trouver dans les plus froides des étoiles? Une hypothèse qui vaut la peine d'être discutée avec l'astrophysicien Franck Celsis.
Stéphanie Texier est aux commandes de notre club. Préparé aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et mes invités avec nous dans quelques minutes, Aline Richard, Jean-Laurent Casanova, Stéphane Frattini, Tanguy Delamotte et Thierry Berthier. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bienvenue. Jean-Laurent Casanova, c'est vous qui allez recevoir la semaine prochaine le Grand Prix INSERM 2016 pour vos travaux sur la génétique humaine des maladies infectieuses. Vos recherches concernent en particulier la vulnérabilité génétique des enfants.
Oui, l'idée qu'on discutera, c'est que les maladies infectieuses graves des enfants sont aussi des maladies génétiques.
Tanguy Delamotte, on n'avait pas prévu de vous retrouver si tôt dans ce studio. Le Vendée Globe, c'est déjà terminé pour vous.
Est-ce que... Oui, malheureusement, ouais. c'est sympa d'être là, mais effectivement, je suis rentré plutôt que prévu de ce tour du monde à la voile.
Le moral est bon, ça va ?
Le moral est bon, oui.
Bon, Stéphane Frattini, vous publiez Mission Exploration chez Glénat Jeunesse. Ce sont 35 voyages au bout du monde qui ont fait avancer la science grâce à des hommes et des femmes qui vont parfois très loin au bout de leurs limites. C'est un peu le dénominateur commun.
Voilà, c'est une sélection. Nous avons fait une sélection d'expéditions menées par la Société Française des Explorateurs, voilà, pour expliquer aux enfants qu'il est toujours bon d'être curieux.
Et puis Thierry Berthier, avec Aline Richard, on va parler d'un article que vous publiez aujourd'hui même sur le site de The Conversation et qui s'inquiète des dérives malveillantes de l'intelligence artificielle. Vous avez étudié, par exemple, un scénario pouvant aboutir à une situation de guerre mondiale ?
Guerre mondiale, c'est vite dit, mais une situation, un contexte, oui, qui pourrait, dans un cadre militaire, poser des problèmes. Ouais. Effectivement, un contexte de crise.
Voilà, autour de l'intelligence artificielle.
Voilà, qui serait déclenchée par une séquence de différentes intelligences artificielles.
Bonjour Aline Richard.
Bonjour.
On se retrouve tout à l'heure donc avec ce partenariat The Conversation. Et on se retrouve bien sûr avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque. Et si la vie ailleurs dans l'univers était atmosphérique et aérienne, en élargissant le concept déjà très flou de zone habitable, eh bien des chercheurs écossais suggèrent que des formes de vie aérienne pourraient exister dans les hautes couches atmosphériques des naines brunes, ces astres froids à mi-chemin entre une planète et une étoile. Pour nous éclairer, Franck Celsis est avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour.
On va discuter avec vous de cette hypothèse originale. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Par quel bon on commence alors, Axel, finalement, sur ce thème?
On explique ce qui s'est passé. On peut demander à Franck de nous expliquer un tout petit peu l'hypothèse de ces Écossais, pour commencer.
Oui, alors bon, on ne connaît pas grand-chose, bien sûr, sur l'origine de la vie et sur les milieux où on peut la trouver dans l'univers. On se base beaucoup sur ce qu'on sait de la vie terrestre. Néanmoins, on a cette idée de suivre l'eau liquide. L'eau liquide nous semble un ingrédient nécessaire à la vie telle qu'on la connaît. Donc, une première étape de cette recherche, c'est de repérer les environnements astrophysiques où on pourrait avoir de l'eau liquide. Et donc là, dans ce travail, ce que proposent ces chercheurs, c'est que dans l'atmosphère de certaines naines brunes, on a la bonne gamme de température et de pression pour avoir la formation de nuages d'eau liquide. Alors hélas, ils ont fait une erreur en faisant cette estimation.
Alors voilà, c'est ça dont il faut parler, parce que en lisant la publication, vous vous en êtes aperçu en fait il y a quelques minutes.
En fait, vous m'avez contacté ce matin, c'est vous qui m'avez parlé de cet article, donc je l'ai regardé avec intérêt. Et effectivement, ils ont bien identifié dans ces naines brunes une gamme dans l'atmosphère, une gamme d'altitude où la température est bien compatible avec la température de l'eau liquide, c'est-à-dire entre 0 degré Celsius et environ 370 degrés Celsius. Ça, c'est la gamme où l'eau liquide est possible.
Ouais.
Mais il faut aussi, pour avoir de l'eau liquide, avoir une pression de vapeur d'eau supérieure à 6 millibars. Et comme les naines brunes contiennent très 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 peu d'eau, il faudrait, pour avoir 6 millibars de vapeur d'eau, des pressions bien supérieures à celles qu'on trouve dans la bonne gamme de température. Et ils ont fait une erreur un peu de débutant, qu'on n'attendrait pas dans ce niveau de publication, et qui invalide en fait ces objets-là pour ce type de phénomène. Après, on peut retenir l'idée de se poser la question, est-ce que des atmosphères, qu'elles soient des atmosphères de naines brunes ou de planètes, c'est le cas d'ailleurs de Vénus, qui n'a pas de conditions habitables à sa surface, mais qui a des gouttelettes d'eau liquide dans son atmosphère, On pourrait donc rechercher ce genre d'environnement. Alors ça ne s'applique pas aux naines brunes que ces chercheurs-là avaient identifiées. Il faudrait, pour trouver ça dans des naines brunes, avoir des naines brunes beaucoup plus froides, qu'on n'observe pas encore, et aller chercher ces conditions-là à des pressions beaucoup plus élevées, non pas à la pression que vous avez dans la pièce où vous êtes actuellement, mais des pressions 100 à 1000 fois supérieures pour avoir suffisamment d'eau et que cette hypothèse soit valide.
Et quand vous dites beaucoup plus froide, ce serait quoi la température de ces naines alors ?
Alors, c'est compliqué de définir la température de ces objets. Nous, pour nous, astrophysiciens, on se donne des températures, comme ça, ça a du sens. Mais en fait, tout dépend à quel endroit on regarde. On affecte une température, en fait, qui correspond à la luminosité de ces objets. Donc, si je dis, par exemple, qu'une naine brune a une température de 300 Kelvin, donc à peu près 0 degré Celsius, sa haute atmosphère va être à cette température, mais plus on descend, plus il va faire chaud, jusqu'à faire des températures très 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 élevées dans son intérieur.
Franck Celsis, est-ce qu'on connaît des formes de vie aériennes et uniquement aériennes sur Terre ?
Alors ça, ce serait une question à poser à un biologiste. Il est clair que la dynamique atmosphérique, les gouttes d'eau qu'il y a dans l'atmosphère transportent des ingrédients de la vie et transportent des cellules vivantes qui vont du coup se déplacer. On le sait pour des pollens, des spores, etc. À savoir si maintenant la goutte d'eau atmosphérique est le site d'un écosystème, c'est-à-dire que durant le temps de la vie d'une goutte d'eau, il se passe des choses dans un écosystème vivant de bactéries. C'est une bonne question, mais j'ai pas la réponse, c'est pas du tout mon expertise, et c'est une bonne question qu'il faudrait que vous creusiez.
Eh ben, on va le faire.
Et j'en ai une autre. Sur Terre, la source d'énergie, c'est le Soleil, donc c'est l'astre autour de laquelle tourne la Terre. Là, si la vie est sur l'astre, quelle est la source d'énergie de ces organismes ?
Alors, la vie, elle s'est utilisée différentes sources d'énergie. Effectivement, il y a eu un grand bouleversement dans la vie terrestre quand la vie terrestre a réussi à utiliser le rayonnement venu du Soleil. Ça a été un grand bouleversement parce que ça a permis d'utiliser une source d'énergie beaucoup plus importante que le faible flux d'énergie interne qui nous arrive de l'intérieur de la Terre et qui en plus est peu utilisable du point de vue thermodynamique par la vie. Donc si on se pose maintenant la question d'une vie qui serait dans l'atmosphère, par exemple d'une naine brune, la question c'est quelle serait la source d'énergie. C'est pas du tout une question triviale. La vie est un phénomène très hors équilibre, qui a besoin d'une énergie qui a une qualité particulière, qui a une entropie la plus basse possible pour qu'elle puisse être utilisée. Donc il ne suffit pas, comme les auteurs écossais le disent, avoir à disposition les éléments qu'il faut, le carbone sous forme de méthane, de monoxyde de carbone, l'hydrogène, l'azote, etc. Il faut aussi qu'ils soient présents dans des formes activées, des formes suffisamment énergétiques pour que la vie puisse en extraire de l'énergie, puisque effectivement dans ce cas-là, il n'y aurait pas de source externe, il n'y aurait pas de rayonnement qui arrive de l'extérieur, qui est émis par une étoile beaucoup plus chaude comme c'est le cas de la Terre et qui peut être utilisée. Donc on sait que la vie peut utiliser d'autres sources d'énergie, c'est le cas sur Terre. Il y a des formes de vie qui vivent à l'intérieur de la Terre, qui vivent dans les roches, dans des endroits bien sûr où il y a de l'eau liquide, mais qui n'utilisent pas directement l'énergie du Soleil, qui utilisent des déséquilibres chimiques liés à la circulation de l'eau dans des zones de températures différentes au sein de la Terre. Mais c'est des formes de vie qui font pas grand-chose, qui ne bénéficient pas de toute l'énergie que la photosynthèse elle est capable d'emmagasiner et d'utiliser.
Franck Celsis, justement, quand on cherche la vie, on va essayer de trouver des systèmes planétaires qui ressemblent plutôt aux nôtres, avec des zones d'habitabilité, mais est-ce que c'est pas un manque d'imagination criant ? Est-ce qu'il n'y a pas des formes de vie, même invisibles, qui pourraient exister dans l'univers ?
Alors effectivement, la question des zones d'habitabilité, d'abord il faut bien voir qu'elle est posée généralement par des astrophysiciens comme moi, donc on simplifie énormément le problème et on va d'abord regarder où est-ce qu'on va trouver certains ingrédients pour la vie. L'un, c'est l'eau liquide. Alors l'eau liquide, on rajoute un autre élément qui est, on va en particulier s'intéresser à l'eau liquide à la surface de planète. De cette façon, la vie, si elle y est présente, elle bénéficie de la présence d'eau liquide, mais elle a aussi accès au rayonnement de l'étoile, et donc elle peut développer la photosynthèse. Alors là, on peut dire stop, attention, c'est un peu restrictif, puisqu'on sait qu'il y a de la vie qui n'a pas besoin de ce rayonnement stellaire et qui peut utiliser l'énergie à l'intérieur. Donc du coup, on peut étendre très largement cette zone d'habitabilité aux intérieurs des planètes. C'est pour ça que, par exemple, on s'autorise à aller envisager de la vie à l'intérieur des satellites glacés des planètes géantes, comme Europa, qu'on veut explorer pour poser cette question. Pour justement savoir s'il y a de la vie. Le problème, c'est si on parle de vie qui n'est pas dans le système solaire mais ailleurs, il faut pouvoir la repérer
et voilà.
Avec des télescopes. Et donc, on se retrouve dans le problème de celui qui cherche ses clés sous un lampadaire. Il faut trouver le lampadaire. Et si la vie se trouve dans la zone d'habitabilité où il y a à la fois de l'eau liquide à la surface et donc du rayonnement, eh bien là, la vie peut mettre en place la photosynthèse. Et dans ce cas-là, elle peut produire des phénomènes beaucoup plus faciles à discerner de ce que fait juste la physique et la chimie de base. Sur Terre, il n'y aurait pas la photosynthèse. Un observateur extérieur, il aurait bien du mal à savoir qu'il y a de la vie sur Terre. Il faut cet input d'énergie énorme de l'étoile pour espérer que la vie puisse bouleverser en fait l'environnement d'une planète, tous les grands cycles biogéochimiques, le cycle oxygène, le cycle du carbone, d'une façon qui soit observable à distance.
Merci beaucoup Franck Celsis, c'est vous qui avez été notre lampadaire aujourd'hui pour nous éclairer sur cette publication dont vous avez donc décelé une erreur assez énorme.
Je pense que beaucoup d'autres vont la déceler, elle est assez facile à déceler.
C'était publié dans l'Astrophysical
Journal. Une revue sérieuse, l'Astrophysical Journal, pourtant.
Merci beaucoup et Axel, bon week-end.
Bon week-end Mathieu.
Au revoir.
Allez, bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une nouvelle forme de la mémoire mise en évidence par stimulation magnétique. Une étude parue dans la revue Science ce matin pense avoir mis en évidence donc une nouvelle forme de mémoire. Elle servirait au cerveau à stocker les souvenirs avant de les inscrire durablement dans la mémoire à long terme. Différente de la mémoire de travail qui ne subsiste seulement que quelques heures, eh bien cette nouvelle forme de mémoire transitoire doit être encore confirmée, mais elle pourrait avoir de nombreuses implications médicales et pratiques, surtout pour la compréhension des mécanismes d'apprentissage. Un seul trip à la psilocybine est efficace pour lutter contre la dépression et le stress lié à la maladie. Cette substance hallucinogène, contenue essentiellement dans les champignons magiques interdits en France, est depuis plusieurs années testée pour ses vertus thérapeutiques. Un nouveau test réalisé par des chercheurs de New York montre que pour des patients atteints de cancer avancé, une seule prise de psilocybine accompagnée d'un suivi psychologique diminue drastiquement le stress et soigne la dépression pour plusieurs mois. Et puis la 30e édition du Téléthon, ça se déroule aujourd'hui et demain avec une collecte anniversaire pour l'Association française contre l'hémiopathie. Un objectif à battre, celui du record de 2015 avec 101 millions d'euros collectés. Si vous souhaitez participer et financer le Téléthon, eh bien retenez le numéro de téléphone a composé pendant tout le week-end, 36-37 pour vos promesses de dons. Et c'est le club dans un instant.
Roll lights underneath the berry post. Dark.
I Can't Stop Thinking About You, la voix de Sting sur France Inter.
Le club carré sur France Inter.
Et donc au menu cet après-midi, un chercheur primé pour ses travaux sur la génétique humaine, les dérives malveillantes de l'intelligence artificielle, Tanguy de la mode de retour du Vendée Globe et des explorations pour les enfants. Jean-Laurent Casanova, on va donc commencer avec vous. La semaine prochaine, vous allez recevoir ce prestigieux prix de l'INSERM, le Grand Prix 2016 pour vos travaux sur la génétique humaine des maladies infectieuses. Vous êtes pédiatre, directeur d'un laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses justement à l'Institut Imagine à Paris. Et puis parallèlement, vous êtes aussi directeur d'un laboratoire à New York au sein de l'Université Rockefeller. Comment vous faites pour vous partager sur les deux sites et est-ce qu'ils sont complémentaires l'un de l'autre ?
Oui, les deux sites sont complémentaires. Les deux laboratoires font en fait les mêmes travaux. Et je suis peut-être un tiers du temps à Paris, un tiers du temps à New York et un tiers du temps dans d'autres pays en train de recruter des malades.
Oui, donc c'est vraiment un secteur de recherche qui fait appel à tous les cerveaux de la planète quasiment. Vous échangez beaucoup les informations entre vous ou pas ?
On collabore avec beaucoup de pédiatres pour recruter des petits malades et les étudier, les enrôler dans nos protocoles. Mm-hmm. Et on collabore aussi avec beaucoup de scientifiques dans des disciplines plus fondamentales, oui, ouais. À droite à gauche.
Alors justement, quelle est la grande question que vous vous êtes posée et qui est au cœur de vos recherches ?
Bon, donc la grande question, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière. En gros, jusqu'à 1850, la moitié des enfants meurent de fièvre avant l'âge de 15 ans.
Et donc, la moitié des enfants.
La moitié des enfants. L'espérance de vie à la naissance est de 20 ans. Et donc ça a été comme ça pendant 200 000 ans sur toute la planète. Donc la grande question médicale, c'était la fièvre de l'enfant et la mortalité suite à cette fièvre. Ouais. Entre 1860 et 1870, c'est la théorie microbienne. C'est les microbes qui causent ces fièvres. Et jusqu'à 1900, les choses paraissent simples. On pense que les enfants qui sont infectés sont malades. Et que ceux qui ne sont pas infectés ne sont pas malades. Mmh. Et que ceux qui ne sont pas malades n'ont pas été infectés.
Ouais, c'est ça.
Et donc vers 1900, les choses se compliquent quand on se rend compte qu'en fait, la plupart des enfants, et d'ailleurs des adultes, sont infectés par la plupart des microbes.
Mais personne ne développe la maladie de la même façon.
Ne développe pas de maladie. Ouais. Donc on se rend compte, par exemple, vers 1900, que tout le monde est infecté par le bacille de la tuberculose, et pourtant, il n'y a qu'un enfant sur 1000 ou un adulte sur 1000 qui va développer une tuberculose.
Donc c'est
le problème qui est posé.
Début du 20e. Hein.
C'est 1900. Ouais. 1900-1910. C'est le problème qui est posé. On sait que le microbe est nécessaire, mais on ne comprend pas les maladies infectieuses. Mmh. Et donc, à cette période-là, plusieurs généticiens proposent que les maladies infectieuses sont aussi des maladies génétiques. Et non seulement ils le proposent, mais ils le documentent, par exemple, chez les plantes. On apprend en 1903 que les infections du blé par un champignon sont strictement génétiques. Elles sont même mendéliennes. Donc en 1903, on a une preuve de l'existence d'une théorie génétique déjà chez les plantes. Ensuite, il faut attendre en gros les années 30, les années 40 pour que chez l'homme, il y ait des études cliniques et épidémiologiques qui montrent, sans identifier les gènes ou les cellules ou les molécules responsables, mais qui montrent clairement que dans les populations humaines, pas seulement chez les plantes ou chez les animaux, il y a une forte composante génétique derrière les maladies infectieuses. Ouais. Ça, c'est les années 30, les années 40. Et puis ensuite, on arrive aux années 50. Aux années 50, c'est la découverte des déficits immunitaires héréditaires, c'est-à-dire des maladies très rares, des enfants qui naissent sans immunoglobuline, sans anticorps ou sans telle ou telle catégorie de globules blancs, et ces gamins sont vulnérables à un grand nombre de microbes.
Ouais. Est-ce que ce sont les bébés bulles,
voilà, exactement. Donc, c'est vraiment des maladies très rares et très sévères. Mmh. Et donc, c'est déjà une première étape parce que ça prouve qu'effectivement, il y a des maladies génétiques qui sont responsables de certaines infections chez l'homme. Et donc, j'accélère. Nous, l'idée qu'on a testée au cours des 20 dernières années, c'est que des enfants qui n'ont pas ces anomalies, qui n'ont pas ces déficits immunitaires héréditaires, ils ont donc en apparence tous les composants nécessaires pour développer une réponse immunitaire. On a testé l'hypothèse qu'un enfant qui faisait donc une grippe sévère à l'âge de 5 ans, ou une tuberculose à l'âge de 10 ans, ou je ne sais quoi à l'âge de 15 ans, par ailleurs bien portant, avant et après cet épisode infectieux gravissime, on a testé l'hypothèse que ces enfants avaient eux aussi des maladies génétiques qui compromettaient leur réponse immunitaire. Et donc ce qu'on a découvert en testant cette hypothèse, c'est qu'en effet, pour bon nombre de ces maladies de l'enfant, il y a un microbe, mais aussi une lésion génétique qui est responsable.
Alors c'est ça. Donc c'est vraiment cette vulnérabilité génétique qui est au cœur de cette inégalité, on va dire, face à l'infection.
Voilà, vulnérabilité génétique ou déterminisme génétique même.
Oui. Alors vous avez apporté quelles preuves, finalement, Jean-Laurent Casanova, avec votre équipe ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes récompensé pour ces travaux, entre autres.
On a étudié des infections virales, des infections bactériennes, des infections aussi fongiques et parasitaires. Peut-être une dizaine d'agents infectieux. Et pour chacun des agents infectieux, pour chacune des maladies infectieuses qu'on a étudiées, on a identifié des enfants, parfois un ou deux, parfois une dizaine, parfois une centaine, ça dépend un peu de l'état d'avancée de nos protocoles, qui portent des maladies génétiques qui compromettent l'immunité spécifiquement vis-à-vis d'un microbe. Donc vous pouvez être en parfaite santé jusqu'à l'âge de 15, 20 et même on a étudié des adultes, 30, 40 ans, et tout d'un coup vous êtes infecté par un microbe qui est par ailleurs inoffensif dans le reste de la population et crac, du fait de cette lésion génétique, vous êtes malade.
Donc ce sont ces mutations au fond, que vous avez
repérées ? Ce sont des mutations ou des variations, on peut appeler ça.
Alors quand on fait cette découverte justement, et je vous passerai ensuite la parole Stéphane Frattini, quand on fait une telle découverte, on se dit ben voilà, on a trouvé la clé du problème, c'est très simple, on va pouvoir guérir très vite les maladies ou on en est bien loin?
Non, alors on n'a pas trouvé la clé, on a apporté une preuve de principe. C'est-à-dire que pour une dizaine d'infections et un certain nombre d'enfants pour chacune de ces infections, on a identifié les lésions génétiques. Ouais. Mais on est au milieu du guet. Enfin, je dis au milieu du guet, on a fait deux, trois pas dans l'eau. Ouais. On est au début d'une aventure qui, à mon avis, va prendre 50 ou 100 ans pour être véritablement bouclée.
Ah oui, quand même. En tout cas, vous êtes sur la compréhension des mécanismes, ce qui est déjà très important. Hein.
Voilà, mais c'est une théorie générale. C'est une théorie qui a vocation à être testée pour l'ensemble des maladies infectieuses et l'ensemble des enfants.
Stéphane Frattini.
Oui, ce que je me demandais, c'est si vous prenez deux ou trois enfants qui sont même de pays différents pour une maladie donnée, est-ce que vous allez retrouver exactement...
La réponse est oui, et la réponse est aussi non, parce qu'il y a une très grande hétérogénéité génétique. Donc, si on prend, par exemple, les infection par les mycobactéries, eh bien on a découvert au cours des 20 dernières années que les mêmes gènes étaient mutés, que ce soit au Japon, en Australie, en Guinée ou en Colombie, et étaient responsables d'infections mycobactériennes. Mais il y a aussi d'autres maladies infectieuses pour lesquelles, au sein même d'un certain groupe ethnique ou d'une certaine population, il y a un grand nombre de gènes qui peuvent être mutés.
Tanguy de la Motte. Hein.
À partir de combien de cas vous estimez que vous arrivez à définir une tendance ou
La preuve de principe, on considère qu'on l'a établie à partir du premier cas. Et je vais prendre un exemple. L'année dernière, on a identifié la première grippe génétique. Donc un enfant qui à l'âge de 2 ans à Angers était en réanimation pour une grippe maligne et on a identifié 2-3 ans plus tard la cause génétique de cette grippe maligne. Donc pour la grippe, aujourd'hui, on a un cas.
C'est une preuve de principe.
Donc c'est pas encore un paradigme. Ouais. Tant qu'on n'a pas des centaines d'enfants ou une majorité d'enfants hospitalisés pour une grippe maligne pour lesquels on a une explication, on n'a pas encore de paradigme.
Qu'on comprenne bien. Donc c'est pas le virus là qui agit dans ce cas-là précis.
Donc non, c'est pas le virus.
C'est le gène.
C'est le gène qui est responsable de la maladie infectieuse.
Et ça, c'est complètement nouveau parce que vous d'entendre parler d'une grippe génétique, déjà le terme en lui-même.
C'est nouveau, mais en même temps, c'est pas nouveau. En 1903, c'était déjà documenté pour le blé.
On pourrait discuter
pourquoi historiquement il a fallu une centaine d'années pour qu'on se pose la question chez l'homme. Mais ça, c'est un autre sujet d'émission.
Ouais, mais est-ce que c'est quand même une façon complètement nouvelle d'aborder justement la question de ces infections aujourd'hui?
Je pense que c'est assez nouveau parce que les maladies infectieuses, comme vous le dites, c'est l'archétype de la maladie environnementale.
Ouais.
C'est que vous ouvrez un livre de médecine ou un livre de vulgarisation pour les enfants, on vous explique que les maladies infectieuses sont des maladies environnementales. Or, ce qu'on montre, nous, c'est que les maladies infectieuses sont en fait probablement les maladies les plus génétiques des maladies humaines.
Ah, mais ça, c'est incroyable. Ouais. Et ça veut dire donc qu'on n'a pas du tout les traitements appropriés, alors, si c'est le cas?
Alors, vous avez raison de parler de thérapeutique. Donc aujourd'hui, le traitement des maladies infectieuses, c'est les antiviraux, les antifongiques, les antibiotiques. Bon. Simplement par sélection naturelle, dans 10, 100 ou 1000 ans, les micro-organismes vont devenir résistants à ces agents anti-infectieux. C'est inéluctable. Ouais. On ne sait pas quand, mais c'est inéluctable. Et il est peu probable qu'on développe de nouveaux agents anti-infectieux à la vitesse à laquelle les micro-organismes vont devenir résistants. Donc, l'identification des bases génétiques des maladies infectieuses va nous permettre, si elle est documentée à temps, d'identifier de nouvelles pistes thérapeutiques. Elles vont consister très simplement à traiter les infections ou prévenir les infections en offrant aux enfants la molécule que leur organisme génétiquement n'est pas capable de produire. Comme on donne de l'insuline aux diabétiques.
Aux diabétiques, oui. Mais c'est le principe, effectivement, d'aller chercher ce qui peut soigner au sein même de l'organisme.
Je vais vous donner un exemple. On a identifié la semaine dernière au Koweït un petit enfant qui a une lésion génétique dans l'interféron gamma. Donc il ne fait pas d'interféron gamma, il a des infections mycobactériennes. L'interféron gamma est un médicament depuis 30 ans.
Ouais.
Et donc le traitement de cet enfant, il est déjà dans les rayons des pharmacies. Donc au lieu de le traiter avec des antibiotiques, on va le traiter avec la molécule manquante.
Sur quelles maladies infantiles vous travaillez en particulier, justement, Jean-Laurent Casanova?
Beaucoup d'infections virales, la grippe, l'encéphalite herpétique, d'autres encéphalites virales, les myocardites virales, les hépatites virales fulminantes, donc pas mal d'infections virales, des infections mycobactériennes, tuberculose, infections par des mycobactéries moins virulentes, des infections par des bactéries pyogènes, staphylocoques, pneumocoques, et puis des infections fongiques, un bon nombre de champignons, par exemple Candida, Aspergillus et quelques autres.
Mais dans le cadre de vos recherches cliniques, est-ce que vous arrivez à guérir des enfants déjà ou pas?
Mais oui, depuis 20 ans, on a identifié, je dirais, une cinquantaine de maladies génétiques, et pour peut-être une dizaine ou une quinzaine d'entre elles, l'identification de ce qu'on appelle le gène morbide, c'est-à-dire le gène dont les mutations sont responsables de la maladie, nous a permis d'offrir un traitement, parce que certains de ces médicaments étaient déjà disponibles, certaines de ces molécules ont déjà été synthétisées par les industries pharmaceutiques.
Bon, donc beaucoup de promesses, et effectivement c'est ce qui justifie aussi ce grand prix INSERM, que vous allez recevoir la semaine prochaine, Jean-Laurent Casanova, et c'est la raison pour laquelle on a le plaisir de vous recevoir cet après-midi dans le club de la Tête au Carré. Vous restez avec nous dans un instant, on va parler de cette eau liquide aussi, qui est au cœur de son de sa pratique, c'est le skipper Tanguy de Lamotte.
J'ai retrouvé sous mes angles de la terre, celle d'un endroit où je n'ai jamais été. Le plafond est étoile, le sol jardin. Des cascades dans mes cheveux souffraient un chemin. C'est un royaume où règne la musique et le silence. Il me fut entièrement légué, oui, je pense.
Vous voyez, la tête de mât, elle s'est cassée là. Donc je sais pas trop comment ni pourquoi. Mais maintenant, je suis pas très loin du Cap Vert, donc je vais essayer d'aller m'y arrêter. Essayer de voir s'il y a des solutions parce que c'est trop con. En tout cas, je pense que ça vaut le coup de se creuser la tête pour trouver une solution pour les enfants aussi. Donc j'espère que l'histoire s'arrête pas là tout de suite. Donc, je vous tiens au courant. Salut.
Aïe. Bah, si, aïe, ça, aïe, aïe. Ça s'est arrêté là, hein, tant pis de la motte. Hein.
Oui, ça s'est arrêté là. J'ai fait une petite escale au Cap-Vert où j'ai arrêté mon bateau dans la baie de Mindelo. Très bel endroit, soit dit en passant.
Ouais.
Mais j'étais pas parti pour faire du tourisme. Et du coup, effectivement, je me suis arrêté. Je suis resté dans les conditions de course en solitaire sans assistance. C'est-à-dire que je me suis mis au mouillage et personne n'est venu m'aider.
C'était un choix de votre part.
C'était un choix de ma part.
Pourquoi?
Et mon équipe technique est restée. Parce que du coup, déjà au moment où je me suis arrêté, j'avais pas encore la certitude de pas pouvoir continuer la course. Mm-hmm. Donc pour pouvoir continuer la course, fallait pas faire une erreur vis-à-vis du règlement. Et donc l'erreur vis-à-vis du règlement, c'est d'être aidé ou de mettre le pied à terre. Donc là, j'avais fait en sorte de rester sur mon bateau. Il y a des gens qui sont venus me voir, mais qui m'ont parlé, mais qui m'ont pas aidé. Ça, c'était les conditions pour lesquelles je pouvais espérer pouvoir reprendre la course. Après, je suis monté en haut de mon mât qui était cassé. Il manque 30 cm, il manque 1% du mât.
Aïe, aïe, aïe.
Il manque la partie la plus haute. Ça suffit parce que, en fait, tout là-haut, il y a mes instruments pour savoir la force du vent, qui m'aide à faire fonctionner mon pilote automatique. Et sans ça, c'est assez compliqué de faire le tour du monde. Et en plus, le problème, c'est que, en fait, en se cassant, le mât, avec les drisses, donc les cordes qui sont dans le mât, a été découpé. Donc, en fait, la partie haute, elle est cassée et en plus, elle est sectionnée.
Absolument.
Elle est déchirée sur la partie haute.
Ça, c'est un cas de figure que vous aviez envisagé ou pas, dans les pires des scénarios?
Alors, le dématage, on y pense. Mais un dématage comme ça, qui en fait, quand on regarde la tête, on a l'impression qu'il s'est rien passé. C'est encore pire que tout, parce qu'on a l'impression que tout va bien. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi la raison qui m'a poussé à me dire, c'est vraiment trop bête. Il faut quand même que je réussisse à ramener mon bateau au moins, parce qu'il peut naviguer, même s'il peut naviguer que lentement et pas me permettre de faire le tour du monde en toute sécurité.
Donc de le ramener en France.
Voilà. Mais je suis resté dans les conditions de la course, c'est-à-dire je suis reparti du Cap-Vert sans avoir été aidé et je suis revenu au Sable d'Olonne en solitaire et j'ai entre guillemets passé la ligne d'arrivée, même si c'est fictif. Et puis qu'en fait, à ce moment-là seulement, j'ai abandonné et mon équipe est montée à bord de mon bateau.
C'est ça.
Moi, ça me permettait de digérer la déception. Ça me permettait de réussir quelque chose malgré l'échec de la course et l'échec sportif, parce que j'avais deux objectifs sur cette course, c'est de faire le tour du monde en 80 jours. Donc là, c'était plus possible. Et dans mon projet Initiative Cœur, de sauver des enfants. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sauver des enfants quand on fait de la course au large? C'est grâce à mes partenaires qui en fait, ont mis une opération en place qui s'appelle donc Initiative Cœur. Et à chaque fois que les gens viennent cliquer sur la page Facebook, mes partenaires donnent 1 € à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Mais ça, on peut le faire même lorsque vous êtes à terre.
Continuer à le faire. Voilà, on s'est dit que ça valait le coup de continuer la course jusqu'à l'arrivée du premier du Vendée Globe. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook et à chaque fois que vous cliquez, donc les nouveaux clics j'aime sur la page Facebook contribuent en fait à génèrent 1 € de la part de mes partenaires. Donc, ça coûte rien à l'internaute.
Et ça aide l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque
pour sauver des enfants. Et ça, c'était notre deuxième objectif qu'on a réussi à atteindre et qu'on essaye de forcément de dépasser. Et en fait, c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être avec vous et d'avoir vécu la fin de la course prématurée d'une manière positive.
Alors, évidemment, c'est tout l'aspect psychologique de l'échec qui est intéressant aussi, parce qu'il faut vraiment faire face. D'abord, il y a cette décision de rentrer que vous avez prise, et puis effectivement de rentrer seul, parce qu'il y a tout un aspect justement psychologique pour pouvoir dire qu'il y a eu quelque chose de fait
de réussi, et puis c'était beaucoup de travail. C'est comme je disais, 1% du mât qui tombe et tout qui s'écroule. Mais voilà, les choses positives du reste du projet qui font qu'on a pu sauver plus de 35 enfants déjà. Ça coûte 12 000 € par enfant, donc vous imaginez déjà la somme qu'on a pu récolter grâce à la générosité des gens sur le village et puis de toute la communauté qui vient cliquer sur Facebook. Et c'est le week-end du Téléthon, c'est une manière aussi d'aider les bonnes causes, et je pense que voilà, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide en tout cas de réussir cette partie-là du projet.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête entre le Cap-Vert justement et les Sables d'Olonne? Vous avez pensé à quoi sur le bateau tout seul?
Ça a été un peu en deux temps, parce que le début était très très lent.
On est prêt à vivre ça? On s'y prépare psychologiquement quand même ou pas?
On s'y prépare, ouais, c'est ça. Avant le départ, on sait que c'est une course qui est très dure, qui est très sélective, et qu'il y a depuis le début de cette course-là, la moyenne, c'est 50% des bateaux qui arrivent à terminer et 50% qui n'y arrivent pas. Donc la dernière fois, en 2012, je fais partie des 50% qui ont réussi à terminer. Et cette fois-ci, je fais partie des premiers qui ne pourront pas aller au bout du rêve. Ouais. Donc forcément,
alors vous étiez dans les plus prometteurs aussi. Hein.
Oui, j'avais fait un beau début de course, j'avais fait un très beau départ. J'étais très fier de ça, j'étais bien positionné. Et puis j'étais dans le groupe qui me correspondait avec des bateaux semblables aux miens et des skippers avec lesquels j'ai l'habitude de batailler sur l'eau. Et voilà, c'est dommage, j'ai vu aujourd'hui la cartographie et les images des copains qui sont dans les mers du Sud.
Alors vous avez fait quelque chose d'assez joli en arrivant au Sable d'Olonne, c'est que vous avez justement fait la forme d'un cœur sur l'eau avec votre bateau avant d'arriver. C'était le dernier signe envoyé.
Oui, c'était effectivement une fois que je suis arrivé en pleine nuit, donc mon équipe technique est montée à bord et puis on s'est dit un peu tous ensemble, voilà, le point final un petit peu de cette aventure sur le Vendée Globe 2016, ça serait joli de faire un clin d'œil supplémentaire à l'association et à tous les enfants qui ont besoin d'être opérés du cœur. Donc on a fait une trace en forme de cœur, effectivement.
Ouais. Votre copain Thomas Pesquet, parce qu'avant que vous partiez, on avait entendu votre échange avec Thomas Pesquet, qui lui s'apprêtait justement à aller dans la Station Spatiale Internationale. Il vous a fait un signe, parce qu'il faut dire qu'au-dessus de nos têtes, donc à 400 km de hauteur, il y a une réplique de votre bateau dans l'espace en ce moment.
Oui, il y a une petite maquette. On s'était vu à Cologne dans son centre d'entraînement, donc j'étais monté dans la réplique de la Station Spatiale. Donc, et puis on avait échangé un petit symbole, donc il m'avait donné un logo de sa mission, un écusson de la mission Proxima, et moi j'avais donné une maquette en papier qu'on envoie et qu'on envoie dans les écoles pour les enfants qui suivent la course. Et effectivement, je voulais dire un grand merci d'ailleurs, parce que grâce à lui, le bateau Initiative Cœur, il a fait le tour du monde plusieurs fois, parce que lui il fait le tour du monde
plusieurs fois par jour
en une heure et demie,
c'est ça,
à 28 000 km/h, donc c'est quand même pas mal pour un bateau qui a un bout de mât cassé. Donc non, c'était super, c'est un super clin d'œil, c'est un super gars. L'expérience qui vit là-haut, il part pour 6 mois. On va faire des parallèles sur nos modes de vie, donc malheureusement je serai plus en mer, mais on va montrer comment on se douche, comment on vit, comment on dort, et c'est vrai que c'est extraordinaire comme aventure, et ils partagent ça d'une tellement belle manière que vraiment je suis hyper honoré d'avoir eu ce petit bout de bateau en papier, ce petit pliage qui était dans l'espace, et qu'il ait pris le temps de faire ce petit clin d'œil, ça m'a beaucoup touché, et c'est vrai que ça, plein de petites choses qui sont sympas autour du projet quand on oublie que on a raté le projet sportif, quoi.
Alors le Vendée Globe, c'est terminé pour vous. Il y a encore combien de jours de course là pour le reste des
Ils vont, les premiers devraient arriver. Là, ils en sont 27e jour de course. Les premiers devraient arriver vers le 25 janvier, plus ou moins, vers la fin du mois de janvier. Et puis, par contre, la flotte est très étirée. Il y a des différences de vitesse de bateaux qui sont assez grandes. Donc les derniers de la flotte devraient arriver peut-être vers un mois et demi plus tard. Donc février.
Et puis Initiative Cœur, donc initiative-cœur.fr pour vous aider justement.
Internet, ou alors la page Facebook surtout. Ouais. C'est là où en fait on compte, on fait notre compteur et on traduit le nombre de nouvelles personnes, de nouveaux likers, de nouvelles personnes qui aiment la page en euros et on attend la fin du Vendée Globe pour remettre le chèque à l'association. Et voilà, ce matin j'étais dans l'école de la petite art d'achat, qui était là au départ, qui a été opéré. Donc c'est un exemple parmi tous ceux qu'on peut opérer, mais je suis allé la voir et elle rentre chez elle au Congo très bientôt. Donc voilà, c'est vraiment des choses fortes qu'on vit avec les enfants et c'est vraiment très concret. Ils sont sauvés quand ils sont.
Ça fait partie des initiatives de cette association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Voilà, Tanguy de la Motte, vous restez avec nous parce qu'on va parler d'un sujet qui vous intéresse. Évidemment, ce sont les grandes expéditions. C'est avec vous, Stéphane Frattini, puisque vous êtes auteur de livres pour enfants. Et vous publiez donc avec le dessinateur Yannick Robert et sous la direction de Christian Clot, qu'on a reçu lui aussi, Mission Exploration, 35 voyages découvertes au bout du monde. C'est aux éditions Glénat Jeunesse. D'ailleurs, vous serez en signature là, juste après l'émission?
Je serai en signature après, oui, au salon du livre à 16h30.
À quel endroit exactement?
Je sais que c'est en bas, au fond. Voilà.
En bas, au fond, mais c'est où le salon du livre?
C'est-à-dire au rez-de-chaussée, au fond.
C'est
à Montreuil.
En bas, au fond, c'est pas très précis pour les auditeurs qui souhaitent aller vous rejoindre. Alors Christian Clot, on l'avait reçu, vice-président de la Société des explorateurs français, qui est donc en ce moment même sur le
oui,
terrain.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Je peux commencer par dire un petit mot sur lui, parce que je crois que dans quelques heures, il va entamer sa troisième mission. Puisqu'il fait une expédition qui s'appelle Adaptation 4x30 jours. Donc il va faire 500 km pendant 30 jours en Amazonie, donc dans le climat le plus chaud et humide. Avant ça, il était, pendant que nous on parlait des élections, lui, il traversait le désert de Lutz en Iran par le plus chaud et plus sec en tirant un chariot. Après, il va aller il va aller après en Sibérie, vous voyez. Et puis avant, il était dans le détroit de Magellan en kayak, en train de ramer. Ouais.
Il va tester les conditions les plus extrêmes.
Voilà,
partout.
Lui, l'idée, c'est vraiment de voir comment le cerveau réagit dans les conditions les plus stressantes possibles, qui sont pas en labo. Voilà, parce qu'il dit qu'en labo, il y a ce qu'on appelle l'effet bouton, c'est-à-dire à tout moment on peut arrêter. Et lui, il se met dans des conditions extrêmes.
Alors c'est chouette parce que c'est un choix d'exploration. Vous expliquez sur en général deux trois pages, avec vraiment le contenu à la fois humain et scientifique de ces explorations, le tout évidemment avec des illustrations. Et alors on retrouve vraiment toutes les grandes explorations qui ont pu nous faire rêver d'ailleurs quand on était nous-mêmes enfants.
Oui, la Société des explorateurs français, ça a été fondée en 1937, et donc là bon, les explorateurs français n'ont rien de plus que les explorateurs étrangers, simplement ils sont pour nous, on les connaît bien effectivement parce qu'on a tous rêvé avec les uns ou les autres.
L'Annapurna, le Rano des Cimes par exemple, mais également les grandes explorations de paléanthropologie pour aller sur les traces des fossiles.
Et le choix de les illustrer, c'était aussi pour tout mettre au même niveau, parce qu'au fond, il y a des étapes très différentes. Si on voit l'exploration des années 1930, on est encore très loin de... Enfin voilà, on est encore à une époque où finalement on considère que le monde est vaste, inexploré, je pense à l'exploration de Dakar, Djibouti en 1931, où au fond, et pendant 2 ans, ils vont traverser l'Afrique coloniale, pour dire aussi, vous voyez, on est plus fort que les Anglais. Ouais. Et puis au fond, quand quelque chose les intéresse, ils le pillent, ils prennent, ils se servent, ils remplissent dans des coffres qu'on retrouve aujourd'hui au musée du Quai Branly.
Ce que vous montrez, c'est l'évolution aussi de ces explorations.
J'essaie d'expliquer aux enfants, il y a l'aventure humaine, mais il y a aussi tout le contexte, et expliquer aussi comment...
Il y a eu une grande époque qu'on a connue il n'y a pas si longtemps que ça, où l'exploration était beaucoup plus solitaire, mettait en avant un individu, et ça a complètement changé ça aujourd'hui.
On est dans les années 80 avec Jean-Louis Etienne qui traverse, etc. Et c'est des exploits qui étaient sportifs, individuels. On retrouve aujourd'hui, il y en a encore un petit peu, ce que fait Christian Clot, finalement, c'est aussi un exploit individuel, mais c'est plus...
Les skippers du Vendée Globe, par exemple.
Du Vendée Globe,
on est sur des sortes d'expéditions aussi, quand même.
Ouais, on explore pas forcément les océans, parce qu'on les connaît un petit peu, mais on découvre pas grand-chose. On découvre pas mal de nous-mêmes, en fait.
Ouais. Mais il y a des bateaux comme Tara qui font ça.
Qui sont des exemples. Qui sont des plateformes scientifiques. Ouais. Voilà, il y a aussi un monsieur Evrard Vandenbaum qui met à disposition. Il identifie les lieux les plus sauvages qui restent encore sur la planète,
Il en reste encore.
Un petit peu peau de chagrin. Oui, je pense par exemple, il était aux Philippines.
À Madagascar aussi.
Oui, il est à Madagascar. Et puis là, il était, je pense, c'était aux Philippines où en fait il a découvert une espèce d'une zone montagneuse totalement inaccessible. Voilà. Et par contre, à 5 kilomètres à vol d'oiseau, il y a des plantations de palmiers à huile à perte de vue. Ouais. C'est assez impressionnant.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise l'esprit de l'exploration? C'est plus quelque chose de collectif, justement, avec des groupes de scientifiques qui partent nombreux sur le terrain?
Parce que ça coûte cher, d'abord. Oui, donc c'est pas mal ça. Je pense aussi, vous citez Tara, il y a aussi le radeau des Cimes qui continue cette mission. Oui, c'est plutôt... ceux qui plongent sous la glace, je me rappelle plus, Solar Arctic, je pense, qui plongent sous la glace pour explorer. Oui, c'est des choses collectives où on se groupe explorer. Il reste à explorer l'océan, je pense. Quand j'en parlais avec Christian, il disait, il y a 80% au fond de l'océan, on connaît pas ce qu'il y a dessous.
Tanguy de la mode, vous confirmez, évidemment, c'est un milieu qu'on connaît
sur l'eau que dans l'eau,
mais ce qui est fou, c'est qu'on connaît presque mieux l'environnement de votre camarade Thomas Pesquet, c'est-à-dire l'espace, que l'océan qui est ici à la surface de notre planète.
Une grande partie de la planète, effectivement, et qui laisse aussi une part au rêve pour continuer à explorer tout ça. Donc je trouve que c'est bien qu'on n'ait pas encore tout découvert.
C'est ça. Vous consacrez aussi quelques pages aux Français dans l'espace.
Parce qu'au fond, ce que les expériences que mène Christian sur le cerveau, ça peut servir aussi après pour l'exploration spatiale. On parlait tout à l'heure, hors antenne, de la vie. Existe-t-il de la vie extraterrestre ou pas? En fait, moi, je pense qu'il y a de la vie sur Mars. Et les Martiens, ils sont là. Pour l'instant, ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils sont à l'école encore. Mais c'est eux, ils vont aller habiter sur Mars apparemment bientôt.
Ils seront
martiens, pourquoi pas.
Mission Exploration, 35 voyages découvertes au bout du monde. C'est donc pour les plus jeunes, c'est chez Glénat Jeunesse. Et donc vous serez à Montreuil, au Salon du Livre, dans quelques minutes cet après-midi. On va vous relâcher, donc Stéphane Fratini, pour aller signer votre ouvrage. Merci beaucoup.
Donc exceptionnellement, effectivement, je vais faire une mise en abîme puisque je vais moi-même lancer le lanceur d'alerte. Alors, le lanceur d'alerte, qu'est-ce que c'est? Si on en croit l'étymologie...
Alors, je vais vous lancer le sujet parce que vous n'allez rien comprendre à ce que vous avez entendu à l'instant. On va simplement vous réexpliquer ce qui s'est passé. C'était il y a 2 jours, l'anniversaire de La Tête au Carré, les 10 ans au Studio 104 à la Maison de la Radio, avec une séquence qui était consacrée au lanceur d'alerte. Et pour introduire ce sujet, Nicole Ferroni, que vous venez d'entendre, et qui a trouvé l'inspiration dans les les nocicepteurs. Je vous propose donc de l'entendre.
Donc exceptionnellement, effectivement, je vais faire une mise en abîme puisque je vais moi-même lancer le lanceur d'alerte. Alors, le lanceur d'alerte, qu'est-ce que c'est? Ben, si on en croit l'étymologie du mot alerte, alerte pourrait venir de l'italien alerta de erto qui veut dire escarpé. Donc étymologiquement, les lanceurs d'alerte seraient donc des gens susceptibles de nous prévenir que le chemin à venir risque d'être trop escarpé pour être emprunté. Ils seraient donc des donneurs de direction. Ils savent que là, vous allez me dire, oui mais Nicole, ceux qui donnent la direction, comme le nom le suggère, ce sont les dirigeants. Ce sont nos dirigeants, nos élus, ministres, députés qui sont censés donner la bonne direction à tout le pays, exactement comme le cerveau guide le corps humain. Il y a d'ailleurs une grande similarité entre cerveau et dirigeant, puisque de la même façon que notre cerveau possède deux hémisphères cérébraux, notre parlement lui aussi est bicaméral. Il y a deux chambres, Sénat, Assemblée, et le gouvernement serait donc le cervelet. Alors le problème, c'est que le cerveau, comme nos dirigeants, peuvent parfois se tromper et peuvent par leurs erreurs mettre en danger d'autres parties du corps humain ou de la société, par exemple faire se poser la main sur une plaque de cuisson. Et là vous allez me dire, oui mais Nicole, ce n'est pas grave, parce que lorsque le cerveau ressentira la douleur en son sein, il ordonnera au reste du corps de prendre une autre direction pour s'éloigner du danger. Oui, mais le problème, et ça vous le savez mieux que moi puisque vous êtes tous des scientifiques, c'est que le cerveau est le seul organe du corps humain qui est dépourvu de récepteur à la douleur. La douleur, il ne la ressent pas. Et ça on le voit aussi chez certains dirigeants, notamment quand on écoute monsieur Ciotti lorsqu'il dit qu'il est très heureux que Nice n'accueillera pas les migrants. On sent qu'il y a quand même chez cet homme un sens très très dépourvu de la douleur, de l'empathie, si bien... voilà. Si bien que finalement, si on attend que le cerveau ou les dirigeants ressentent eux-mêmes la douleur pour indiquer au corps un autre chemin, eh bien, votre main posée sur la plaque de cuisson aura le temps de finir en kebab, que le cerveau n'aura rien fait. Et donc, quand on voit ça, on se dit, mais c'est terrible, Nicole. Ça veut dire que du coup, nous allons droit dans le mur si le cerveau ne voit pas la douleur, les dangers, les méfaits vers lesquels il court. Eh ben non, rassurez-vous, car le corps est pourvu, justement, de récepteurs à la douleur, appelés nocicepteurs. Donc, ce sont des récepteurs nerveux dont les terminaisons sont libres, leurs axones sont dépourvus de gangues de myéline, ils sont présents un peu partout disséminés dans le corps, mais surtout au niveau de la peau, interface entre le corps et le reste du monde. Et lorsque ces récepteurs sont activés par un stimulus douloureux, ils émettent des signaux électriques pour dire vite au cerveau, déplace-toi car ta main brûle, et permettent ainsi d'assurer la survie de tout le corps. Vous allez dire, oui Nicole, mais ça c'est pour le corps humain. Mais qu'en est-il de la société? Elle n'a pas de nocicepteurs. Eh ben si, et nos nocicepteurs, ce sont les lanceurs d'alerte. Car comme les nocicepteurs, les lanceurs d'alerte sont libres eux aussi, dépourvus de gangs. Ils sont disséminés partout, mais surtout à l'interface entre la société et le monde. Comme les nocicepteurs, les lanceurs d'alerte ont cette double capacité. 1. De ressentir la douleur, car ce sont des êtres sensibles aux problèmes du monde. Et 2. De transmettre l'alerte quand ils en ressentent la nécessité. Chez eux aussi, la douleur les rend électriques, au point qu'il émane d'eux un besoin puissant de mettre le monde au courant. Du coup, ils crient aux dirigeants, déplace-toi, tu fais fausse route, et permettent ainsi au corps société de préserver son intégrité. Du coup, certes, les nocicepteurs, comme les lanceurs d'alerte, ne sont que quelques petites cellules disséminées ça et là dans notre corps, mais leur pouvoir est inestimable.
Ah, Nicole Ferroni. Voilà, Nicole Ferroni à la soirée des 10 ans de La Tête au Carré, c'était mercredi soir, et je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'intégralité de cette soirée en compagnie des grands noms de la science, avec en plus un bonus de 45 minutes que vous pouvez podcaster donc sur franceinter.fr à la page de l'émission, et puis également découvrir les vidéos dont cette séquence sur les lanceurs d'alerte avec Nicole Ferroni.
La Tête au Carré, le club.
Et la dernière partie de notre club avec aujourd'hui sur le site internet The Conversation France, eh bien un article étonnant sur les dérives possibles de l'intelligence artificielle. Aline Richard, le sujet de Thierry Berthier vous a beaucoup intéressé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Effectivement, l'intelligence artificielle est un sujet fort médiatique, fort à la mode. Mm-hmm. On en entend parler un peu partout. Et finalement, alors c'est soit quelque chose d'absolument effrayant, soit quelque chose d'absolument magnifique. Finalement, on ne sait pas grand-chose. Il y a non pas une, mais des intelligences artificielles. On va en parler tout à l'heure avec Thierry Berthier, qui est notre auteur pour The Conversation France. Il y a des intelligences artificielles, et puis il y a aussi plusieurs domaines d'application, notamment le domaine militaire.
Alors Thierry Berthier, vous êtes maître de conférence en mathématiques et en cryptographie, très exactement, à l'Université de Limoges, chercheur au sein de la chaire de cyberdéfense et cybersécurité de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr. Donc vous, c'est l'hypothèse d'une dérive malveillante qui a fait l'objet de ce travail là.
Voilà, c'est l'idée. Hein. On a essayé de se situer entre deux écoles qui émergent depuis 2 ou 3 ans. Il y a une école qui est celle qui a été initiée un petit peu par la lettre ouverte d'Elon Musk et de Stephen Hawking. Voilà, qui il y a 2 ans ont voulu alerter sur les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Et eux, donc, ils sont dans l'hypothèse d'une vraie dérive où l'IA va devenir malveillante pour les humains à moyen terme et même à court terme.
Ouais.
Et si on réglemente pas fortement les développements de plateformes intelligentes aujourd'hui, on va vers des grands périls.
Ouais, et donc vous êtes dit, là, on exagère.
Voilà.
Il faut aller voir vraiment la réalité des choses.
La lettre de Musk Hawking a été signée par des centaines de chercheurs et de scientifiques, sans pour autant qu'elle apporte finalement des arguments tangibles, des preuves, parce que c'est joli de dire l'IA va devenir malveillante. Mais si on n'apporte pas de preuves scientifiques ou un début de preuve, on n'a rien dit finalement.
Il y a intelligence artificielle. Aline Richard.
Je crois qu'il faut absolument que Thierry nous explique ce que c'est l'intelligence artificielle, parce que effectivement, je crois qu'on ne sait pas. On a entendu parler de réseaux de neurones, de choses comme ça, mais comment on peut le définir précisément?
Alors c'est une science à l'intérieur de l'informatique qui est récente puisqu'elle fête ses 60 ans cette année. L'IA, le terme IA a une soixantaine d'années. Il est né avec la conférence fondatrice sur l'intelligence artificielle au début des années 50. Et alors le développement de l'IA n'a pas été linéaire. Hein. Mm-hmm. Il y a eu des moments où ça a évolué rapidement, puis d'autres moments où ça a plutôt stagné. Il y a eu des espoirs déçus, et puis là, depuis 5-6 ans, on est dans une vraie révolution, dans tout ce qui est l'apprentissage automatisé, le deep learning. On voit presque toutes les semaines des progrès réalisés, notamment par Google, Facebook, enfin les GAFA, et avec des choses qui avancent très vite. Et presque chaque semaine, on a de nouvelles victoires, que ce soit au jeu de Go, que ce soit sur la lecture.
On en parle souvent,
sur les lèvres, dans l'émission. Ça date d'il y a une semaine.
Ouais.
Prédiction aux élections.
Pardon, tant que la mode, j'ai pas entendu.
Il y a une prédiction, entendu dire que l'intelligence artificielle avait prédit que Donald Trump.
La victoire de Donald Trump.
Voilà, mais c'est pas ce qui est le plus flagrant et spectaculaire.
Alors, Thierry Berthier, justement, qu'est-ce que vous avez fait comme travail pour essayer de répondre à cette question?
Deux autres chercheurs, Olivier Kempf et Jean-Gabriel Ganascar, on s'est posé la question l'an dernier, l'année universitaire précédente, de savoir finalement où il fallait se situer entre l'école qui dit qu'on va vers des grands dangers et puis il y a une école américaine, la singularité, la Silicon Valley, qui dit au contraire, il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de souci. Donc nous, on s'est placé dans l'hypothèse où on a observé des automatismes qui sont mis en place. On s'est dit, avec ce qui existe aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas imaginer un scénario qui puisse arriver à une situation de crise militaire?
Alors
finalement, la réponse est oui. On a réussi à exhiber un scénario crédible, réalisable avec les moyens actuels et les moyens en développement c'est un peu difficile de l'expliquer ici en quelques minutes, mais qui fait intervenir des automatismes liés à l'OTAN, qui fait intervenir la cybersécurité, c'est-à-dire l'OTAN grosso modo a affirmé que en cas de cyberattaque massive sur un des membres de l'OTAN, il y aurait des répliques militaires. Donc ça, ce sont les Américains qui ont mis ça en forme depuis 2-3 ans. Donc là, on a des automatismes qui peuvent tester et puis qui peuvent crawler, c'est-à-dire rechercher des vulnérabilités dans les logiciels, dans un ensemble de logiciels de manière totalement industrialisée aujourd'hui. Et donc, si on combine les deux choses, on peut imaginer qu'une IA, pour se tester, cherche des vulnérabilités informatiques sur l'ensemble de logiciels, y compris des logiciels critiques, sur les installations OTAN, se teste et déclenche par là même d'abord des attaques, puisqu'elle aura les vulnérabilités, elle pourra aussi en même temps avoir les attaques sans les patcher, et ensuite déclencher une riposte de l'OTAN si elle a pu donner une attribution à un autre membre. Voilà. Pour simplifier un petit peu, c'est l'idée.
Voilà, ce travail donc que vous avez réalisé pour essayer de tester une hypothèse, en tout cas autour de l'intelligence artificielle, et on peut découvrir cet article à partir d'aujourd'hui sur theconversation.com. Voilà. Merci beaucoup.
Theconversation.com.
C'est en lien évidemment sur
et en français.
La tête au carré. Merci beaucoup en tout cas à tous et passez un excellent week-end.